Marine Courtade, Alexandra Petit, bonjour. Alors, très heureux de vous rencontrer en cadre de la Foire du Livre pour nous parler de votre bande dessinée. On ne parle pas de ces choses-là. Paru aux éditions La Revue Dessinée et Casse-Formant. Alors, le sujet de votre ouvrage, c'est la question de l'inceste dont vous avez, Marine, été victime. Et c'est finalement, cet ouvrage, c'est un témoignage, voire une enquête, ou même à la limite plus loin, puisque vous élargissez le débat.
Oui, mais en fait, moi, à la base, je suis journaliste, donc j'ai au départ eu cette idée parce que je me disais que ce serait intéressant de traiter la question de l'inceste, non pas à travers le regard des victimes, ni à travers celui des agresseurs, mais plutôt à travers le regard de l'entourage. Et très vite, je me suis dit qu'en fait, faire ça au sein de ma propre famille, ce serait intéressant. D'aller questionner mes oncles et tantes, etc., parce qu'on est une grande famille, et donc j'avais la sensation que il y aurait potentiellement plusieurs points de vue variés, et effectivement, c'est ce qui s'est passé, ouais.
Alors, l'inceste, donc, comme vous le dites, c'est, reste le tabou parmi les tabous. L'honneur de la famille est en jeu, finalement. Et comme vous l'écrivez, donc, l'omerta fait partie de la vie sociale. C'est vrai, ça, à ce point?
Oui, je pense que c'est vrai parce que déjà les questions de violence sexuelle, c'est tabou, c'est très difficile pour les victimes de parler, c'est très difficile pour l'entourage de parler, et l'inceste, c'est le tabou des tabous parce que ça touche non seulement aux violences sexuelles, ça touche aux enfants, ça touche à la notion de famille, qu'est-ce qu'on met derrière ça, et évidemment, c'est impossible dans une famille d'imaginer que pour moi, c'était le grand-père, mais que le grand-père, l'oncle, le père, etc., soient capables de tels actes. Sachant que souvent, c'est des personnes qui sont très fortes pour cacher ce qu'ils sont réellement, quoi.
Vous savez que ça a l'air d'être tout doux, finalement. Je dis, mais oui, où va-t-elle chercher ça? Dans votre tour de France pour interroger, justement, les membres de votre famille, vous avez des moments de doute vous avez finalement même culpabilisé. Et c'est incroyable, non? Ce soit finalement un sort de retour de la preuve.
Oui, ça peut paraître incroyable, mais je pense que c'est la juste continuité des conséquences de l'inceste. C'est que moi-même, en parlant, quand j'ai parlé la première fois de ce qui nous est arrivé, on a peur de faire exploser la famille, on a peur des conséquences, et donc de continuer cette parole en allant interroger mes oncles et tantes et de comprendre comment cette mécanique de l'omerta elle se met en place, et ben cette peur elle reste en fait de que les choses soient mal perçues, que le fait que je veuille questionner potentiellement dynamiter cette omerta, ben ce soit pas l'envie de tous quoi.
Alors, on vous demande par la limite des dates bien précises, d'expliquer les faits, et finalement vos souvenirs sont assez flous. C'est un rejet conscient ou inconscient? Vous vous rendez compte a posteriori que vous avez finalement mis ça de côté?
Oui, je pense que c'est a posteriori parce que en fait, les faits, on les ressent vraiment dans notre chair. Le moment où je me mets à avoir une réflexion autour de ces faits, elle est très tardive, d'autant plus que mon histoire, elle est jamais passée devant la justice. Donc, en fait, on m'a jamais demandé des dates, on m'a jamais demandé tout ça. Et en fait, quand je suis allée interviewer les expertes qui sont dans les annexes, elles m'ont dit, mais en fait, il y a aucune culpabilité à avoir de pas connaître les dates, etc., parce que c'est typique des victimes de violences sexuelles. Et finalement, c'est une preuve pour, quand ça passe devant la justice, c'est une preuve supplémentaire de voir que les victimes ont du mal à se souvenir des dates, etc.
Et est-ce que dans votre enquête, à un certain moment, vous êtes dit, justement, avec ce sentiment de culpabilité, j'arrête?
Je me le suis dit mille fois. Mille fois, j'ai voulu arrêter. Mille fois, il y avait rien qui était facile dans ce voyage. J'avais jamais parlé à aucun de mes oncles et tantes, ni même à mon père de ce sujet-là, en fait. Donc, aller chez eux pour mettre ça sur la table, effectivement, il y a plein de fois où je me suis demandé, mais à quoi ça sert, à quoi bon, quel est l'intérêt de tout ça. Et puis encore une fois avec cette peur plus ou moins consciente de me dire mais je vais vraiment finir par être rejetée par la famille si je continue à poser mes questions et à questionner comme ça l'omerta et le pourquoi le silence qu'il y a eu pendant des années dans cette famille autour de cette question-là et ben potentiellement a créé une multiplicité de victimes de la part de leur père.
C'est plus dur avec votre père que par rapport à vos oncles.
Bah oui parce que c'est mon père.
Mais lui aussi, a finalement, au départ, ne voulait pas se laisser interviewer, finalement, non ? Il n'a pas forcé les choses.
Ouais, mon père, en fait, à chaque fois qu'il a évoqué les choses, il a eu des mots très durs. Il a vraiment rejeté l'idée et que je le questionne et l'idée même d'évoquer ce qui avait pu se passer, etc. Et puis, en fait, je pense que c'est l'interview la plus intéressante parce que je me rends compte que cette dureté dont il a pu faire preuve pendant des années, etc., ben en fait, c'était plus une manière de se protéger lui, parce que c'était trop dur, en fait, pour lui de savoir qu'il avait un père comme ça, et qu'en plus, lui, il a complètement changé de comportement avec moi.
Une fois que ça.
Une fois qu'il a su ce qui s'était passé, donc en fait, c'était une interview à la fois intense et à la fois assez salvatrice pour le futur de notre relation.
Finalement, c'est une victime collatérale, non ?
Oui, je pense que les parents de victimes d'inceste sont clairement des victimes collatérales.
Pour la famille, quoi.
Complètement, parce que en fait, ils se retrouvent démunis dans un monde où les violences sexuelles sont pas du tout bien jugées, bien écoutées par les policiers. Il se retrouve avec la parole d'un enfant à se dire mais qu'est-ce qu'on en fait, etc. En plus, cette parole vient mettre en cause une personne qui les aime naturellement. Donc en fait, ces gens-là, ils sont tout aussi victimes que nous dans ce qui se passe.
Vous parlez de petits arrangements avec soi-même pour se donner bonne conscience. Vous pourriez expliquer ça ?
Plusieurs fois, quand j'ai interviewé mes enquêtantes, effectivement, j'ai eu l'impression qu'il y avait des petits arrangements avec soi-même. Quand, par exemple, une de mes tantes me dit... ta grand-mère à table nous a dit attention votre grand-père est capable de faire des choses graves et que quand je lui demande mais comment ça se fait que t'aies eu ce vent de cette phrase et que ça n'aille pas plus loin et qu'elle me dit mais moi c'est pas ma famille alors que pour moi ma tante je la connais depuis toujours dans cette famille mais comme elle est la femme de mon oncle qui est l'enfant direct du grand-père et de la grand-mère, elle s'est réfugiée derrière ça en disant ce n'est pas ma famille. Et donc, bah oui, ça ouvre des questions philosophiques très intéressantes sur qu'est-ce que la famille et qu'est-ce qu'on choisit de mettre derrière le mot famille.
On choisit mais pas parfois, sa famille, pour aller aussi.
Non, on choisit pas sa famille toujours, mais parfois c'est vrai que j'ai le sentiment que c'est aussi une manière de se créer des petits arrangements pour éviter de regarder vraiment
la réalité.
La réalité, ouais.
L'épouse de Paul dit à un certain moment, la famille, on y entre ou on en sort quand ça nous arrange. Finalement, c'est une auberge espagnole, la famille. Hein.
Bah oui, je pense qu'il y a un côté un peu auberge espagnole.
C'est spécifique à la vôtre ou par rapport à justement dans votre métier de journaliste, vous avez constaté que c'était partout pareil.
Je pense que en fait, moi, j'ai abordé la question de l'inceste dans cette BD, mais je pense que en fait, cette manière dont, avec Alexandra, on allait questionner la notion de famille, ça pourrait toucher beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques différentes. Et effectivement, on peut retrouver ces petits arrangements avec soi-même, cette manière de quitter une famille, d'y revenir, etc., sur, je pense, une variété de sujets sans fin, quoi.
Le confinement a-t-il été un des éléments déclencheurs ou a-t-il eu un impact sur votre travail ? À vous deux, bien entendu aussi, Alexandra.
Ben moi, je suis reporter, donc c'est vrai que j'étais beaucoup juste avant le confinement, j'étais beaucoup dans des avions à partir revenir. Le confinement, c'est vraiment la seule période de crise mondiale où ni les journalistes ni les humanitaires on a eu le droit de partir non plus, alors que d'habitude on est quand même les seuls à pouvoir continuer à partir. Et donc forcément, ce temps où je me suis retrouvée chez moi, c'était un temps aussi de pause, mais c'était aussi un temps de création sur OK, mais quel sujet j'ai envie de faire, quel sujet j'ai dans les tripes. Et donc c'est comme ça que petit à petit, cette idée de faire cette BD est née.
Alexandra.
Moi, j'étais encore à l'école à ce moment-là. Donc, au contraire, c'était un moment de calme m'avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, même si je sais que ça a été très compliqué pour beaucoup de gens. Moi, ça a été un moment où j'ai pu aussi commencer à développer, ce que mon style, mes dessins. Qu'est-ce qui m'intéressait dans le dessin que j'avais envie, parce que c'était à ce moment-là, on avait un exercice à l'école qui était de faire un début de petit court-métrage, un projet de court-métrage, et où je me suis rendu compte que moi, ce que j'avais envie de parler, c'était peut-être la douceur d'une personne envers l'autre, ce rapport au corps de la danse aussi et ce genre de choses.
Alexandra, justement, vous avez été témoin privilégié de ce que nous a raconté donc Marine et qui s'est mise à nu. Je suppose que ça doit quand même une situation peut-être. Vous avez vu sa souffrance. Est-ce que ça a répercuté sur vous? Est-ce que vous aussi, parfois, où vous avez eu très dur.
Je peux pas dire que ça a été facile. Peut-être que j'avais une protection du fait que ça ne m'est pas arrivé. Et que du coup, moi, j'étais juste là pour... moi, j'étais partie du principe que j'étais là pour aider Marine à sortir son histoire, à permettre qu'elle soit lisible de façon peut-être un peu plus douce, qui était ton envie avec de faire la raison pour laquelle tu avais envie de faire une BD. Ouais, c'est je peux pas dire que c'était facile.
Est-ce que vous avez choisi soit de vous impliquer à la limite et faire cette affaire propre à vous, ou au contraire de rester objective et de prendre un peu la distance?
D'un côté, j'essayais un peu de me mettre dans ce que Marine décrivait comme étaient mes émotions à ce moment-là. Je sais pas si c'est très clair, c'est genre. Et beaucoup, moi je pense à une scène en particulier où elle revient d'un interview de ça avec une tante qui est pas, celui avec Corinne, du coup, qui s'appelle Corinne dans la BD, où je ressentais vraiment la colère qu'il y avait dans le texte et aussi un peu ce désespoir, et moi je l'ai compris comme ça. Et oui, effectivement, j'essayais vraiment de me mettre à sa place. Mais aussi vachement de me mettre à la place des oncles et des oncles et tantes qui se voilent la face, parce que je me dis, comme ce que disait Marine tout à l'heure, que en fait c'est ce truc de se voiler la face, de faire preuve parfois de mauvaise foi, de ne pas vouloir comprendre, d'être blessé de ce qui a pu faire quelqu'un d'autre dans sa famille, parce qu'on se sent comme si c'était de notre faute aussi. Que je pense qu'on peut vachement s'identifier, c'est ça. On est vraiment, mais peut-être sur de ce sujet, je pense que c'est pour ça où j'essayais vraiment à la fois de me mettre dans leurs chaussures et c'est de merde.
Marine, le fait d'être journaliste et d'avoir quand même une pratique de l'interview, est-ce que ça vous a aidé, au contraire, à la limite, je dirais peut-être comme le cordonnier, qui sont les plus mal chaussés?
Moi, j'ai eu le sentiment que ça m'a aidé parce que j'avais
la formulation, peut-être.
Ouais, j'avais quand même une habitude de savoir mener un entretien, une interview, et donc je me suis parfois totalement réfugiée derrière mon métier de journaliste parce que sinon je me serais écroulée, je pense, plusieurs fois face aux personnes que j'ai interviewées. Et après, je pense que ça m'a aidé dans un deuxième temps dans le travail que j'ai fait avec Alexandra, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai écrit le scénario. Je pense que j'ai écrit un scénario que j'ai disséqué comme un montage de reportage télévision, en fait. Et donc, je pense
que... C'est senti dans l'écriture. Ça s'est vachement senti dans l'écriture, et ce qui a aidé aussi énormément. Pardon,
Non, dis pas ceci, c'est là, Alexandre. Hein.
Et non, et du coup, c'est vrai que je pense que, le travail qu'on a mené avec Alexandra, le fait qu'elle vienne du monde du dessin animé, que moi je vienne du monde du reportage et du documentaire, même si on rigolait souvent parce qu'on n'a pas le même vocabulaire, en fait nos mots différents veulent exactement dire la même chose, donc on se comprenait assez rapidement et assez parfaitement dans les idées qu'on avait au moment de la création du storyboard, quoi.
Alors il y a pas mal de chiffres qui sont assez édifiants. Chaque année, 160 000 enfants victimes de violences sexuelles en France, une personne sur 10 a subi l'inceste, 10% des victimes portent plainte et 80% des affaires sont classées. C'est énorme quand même, hein. On se rend pas compte. Vous vous rendez compte de ça ou c'est de en potassant, en préparant votre enquête que vous arrivez à ce constat assez effrayant?
Moi, j'ai vu plutôt une évolution sur les chiffres parce que en tant que journaliste, j'avais déjà travaillé sur ces questions-là en France. Okay. Et c'était des chiffres qui étaient très difficiles à trouver, en fait, il y a quelques années parce que l'inceste, encore une fois, on n'en parlait pas, on ne faisait pas d'enquête dessus. L'anthropologue qu'on interview, en fait, elle était tellement seule avec son sujet d'étude qui était l'inceste qu'à un donné, elle a tout lâché, elle est partie s'occuper de ruches et d'abeilles. Tellement elle s'est dit, mais en fait, j'ai pas de financement, j'ai rien pour ces questions-là. Donc, et donc, c'est vrai que moi, j'ai vu une évolution dans le sens où, à un moment donné, après MeToo, après le livre de Camille Kouchner, etc., bah, en fait, les pouvoirs publics se sont un tout petit peu saisis du sujet. Et donc, il y a des études qui sont sorties qui nous permettent de sortir ces chiffres-là, notamment tout le travail de la Civise. Mais en fait, c'est des chiffres qui restent vertigineux. Sur le travail qu'il y a encore à mener pour que ces questions-là ne soient plus taboues et qu'il y ait des vraies réponses données aux victimes et à leurs familles derrière, en fait.
Parce que c'est vrai que c'est assez fou. Et vous donnez également des dates qui sont assez perturbantes. La loi de 80 avec Vizier Halimi, MeToo inceste qui n'apparaît qu'en janvier 2021, 3 ans après le MeToo. On pense à... Et le mot inceste qui n'apparaît dans la loi qu'en 2021, c'est dingue.
Ouais, c'est complètement dingue, ça. Ça laisse un peu sans voix et ça montre tout le chantier dont on parle, en fait. Mais j'ose espérer que, en fait, petit à petit... petit caillou après petit caillou, et ben on va aller vers sur un chemin qui va nous permettre de parler plus sereinement de ces questions-là et d'apporter des réponses sereines et effectives.
Vous citez au début de votre livre Adèle Hanel. En quoi vous a-t-elle inspiré? Vous avez eu l'occasion de la rencontrer, en parler un petit peu?
Je l'ai jamais rencontrée et c'est vrai que je suis tombée complètement par hasard sur une interview qu'elle donnait de mémoire. C'était pour Mediapart. Et je me souviens que cette phrase qu'elle a dite, que je mets en citation dans la BD, m'a fait un écho, mais ça m'a presque touchée physiquement, en fait, tellement je me suis retrouvée dans le sens qu'elle voulait donner dans cette phrase. Et donc, pour moi, ça a été plutôt une évidence, et je crois que je l'avais mis même dès le scénario, cette citation, parce que je trouve qu'elle dit beaucoup de choses. Des questions actuelles sur l'inceste et sur les violences sexuelles, effectivement le violeur n'est pas un monstre et en fait il ne faut pas aller chercher des monstres, sinon on ne les trouvera jamais. Il faut aller chercher le monstre qu'il y a derrière la personne lambda qui est notre père, notre frère, notre cousin, notre grand-père, etc., quoi.
Alors il y a Adèle, mais il y a aussi la prise de parole de Judith Godrej, de Juliette Lewis et d'autres, et finalement on se rend compte que après avoir parlé, tout le monde applaudit, tout le monde trouve ça très bien, c'est magnifique. Et puis finalement, elle se retrouve bannie par rapport à la profession, et rien ne change. Et la justice est des plus peureuses comme pas possible.
Rien ne change. Et après, je pense que les réponses à apporter à ces questions-là sont pas toujours évidentes. On parle quand même d'un crime qui a lieu dans un huis clos total. Donc si on se positionne sur comment la justice travaille et comment elle cherche à juger les gens, elle a besoin de preuves et on est clairement sur des crimes où il n'y a pas de preuves la plupart du temps. Donc je comprends que que la justice soit lente dans la manière de réfléchir et d'activer et de solutionner le problème. D'autant plus dans ce contexte où on voit que la justice est complètement noyée et sous l'eau de manière générale. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça reste important de réfléchir collectivement aux réponses à apporter sur ces questions-là.
Question que je vous posais tout à l'heure, Alexandra, le bleu des souvenirs.
C'est le bleu des yeux de Marie. Non, pas du tout. En fait, la couleur est venue très tard dans le processus que j'avais pour la fabrication de la BD. Et en fait, on avait besoin de séparer les souvenirs du présent. On avait vraiment besoin de séparer ça, et commençant à travailler sur les couleurs d'un terme général, et surtout les couleurs de la couverture, de la première version de la couverture, qui était vraiment très orange et bleu. En fait, on s'est dit, mais c'est ça qu'il nous faut, genre, parce que le sépia, techniquement, c'est du orange. Techniquement, en parlant, plus ou moins. Et ça faisait un beau contraste, en fait. Mmh. Ça faisait un contraste très, assez visuel et assez très compréhensible. Et en plus, après, comme ça, on a continué à en mettre dans les yeux de Marine, dans ce voile qui est tout le temps là, parce que, et qui représente à la fois aussi ce silence, et voilà.
Une BD comme celle-ci, c'est un côté thérapeutique? Est-ce que ça vaut une thérapie?
Oui, je pense que si je suis honnête avec moi-même, je pense que le fait d'être allé voir mes oncles et tantes et de m'être confronté à leurs paroles et d'avoir compris un peu tous les éléments de ce puzzle de l'omerta dans ma propre famille, moi je pense que oui, c'était thérapeutique et quelque part j'ai fait le procès que j'ai jamais eu et ça m'a fait du bien en fait.
Un grand merci à vous deux. Donc on rappelle, On ne parle pas de ces choses-là, aux éditions Casterman et la revue Dessinée. Merci.
Merci beaucoup.